9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est la montée d'une colère jaune, un mouvement inédit qui traduit un mécontentement massif sur le pouvoir d'achat.
Moi, j'ai un peu d'argent, je suis là pour aider les gens qui n'en ont pas. On voit bien que c'est le litre d'essence qui a fait déborder le reste. Il faut réformer la France, mais il faut du temps.
Si je manifeste, c'est parce qu'on n'a aucun parti politique. C'est vraiment une représentation de toutes les classes sociales, de toutes les professions. Je discutais avec une dame, justement, qui me dit « moi, je n'ai jamais manifesté, et moi non plus ».
Une marée jaune qui suscite une peur bleue, celle d'un pouvoir qui ne sait pas comment reprendre la main et se faire entendre de cette France en colère.
Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Et ça, ça me touche profondément.
Aveu présidentiel inédit, là aussi, le politologue Jérôme Jaffré sera notre premier invité. Ce qui est arrivé enfin cette semaine, enfin oui, après un an et demi de négociations, c'est le Brexit de Theresa May.
We will not rerun the referendum. We will not renege on the decision of the British people. We will deliver Brexit and the United Kingdom is leaving the European Union on the 29th of March 2019.
Il n'y aura pas de nouveau référendum, nous ne reviendrons pas sur la décision du peuple britannique. Nous allons mettre en œuvre le Brexit et quitter l'Union européenne le 29 mars 2019. Theresa May, mercredi devant la Chambre des communes. Tempête politique en Grande-Bretagne et beaucoup d'incertitudes encore en Europe. Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge chargé du Brexit au Parlement européen, viendra nous éclairer. Enfin, une bande dessinée nous raconte drôlement et avec des dizaines d'anecdotes l'incroyable histoire de la médecine. J'ai invité son auteur, le professeur Jean-Noël Fabiani, ne le manquez pas, c'est un remède à la mélancolie.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Jérôme Jaffré.
Bonjour.
Vous présidez le CECOP, Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique. Je rappelle que vous avez dirigé les études politiques de la Sofres pendant près de 20 ans. Bref, après plus de 4 décennies à observer les mouvements d'opinion, est-ce qui est en train de se passer avec ces gilets jaunes vous fait penser à quelque chose de connu ou est-ce que ça vous semble totalement inédit ?
Sur le plan historique, il y a des réminiscences qui vont beaucoup plus loin que les 4 décennies que vous venez de me rappeler. Je vous en remercie. Et effectivement, les révoltes populaires jalonnent l'histoire de France. Hein. L'ancien régime les a connues. Ça a fini par la Révolution française, d'ailleurs. Et les révoltes des agriculteurs, les révoltes des vignerons. Là, nous avons quelque chose de nouveau. C'est la révolte des automobilistes. Hein, quelque chose de spectaculaire, d'inédit. Dans les manifestations aussi, c'est quelque chose de profondément inédit avec les réseaux sociaux, l'alliance des réseaux sociaux et des chaînes d'information continue.
Les manifs Facebook ou des manifs BFM, comme ça a pu être dit.
C'est l'alliance des deux. Hein. Sans les deux éléments, pour que le mouvement soit significatif, soit important, il faut qu'il soit visible. Et donc, il ne suffit pas qu'il y ait beaucoup de bloqueurs dans les routes, sur les routes de France aujourd'hui. Encore faut-il que ce soit vu par les Français, entendu à la radio, à Europe 1. Et donc, ce sont des éléments qui comptent beaucoup pour la force du mouvement qu'a lieu aujourd'hui.
Un mouvement sans leader, Catherine Ney le rappelait tout à l'heure. Les corps intermédiaires, les syndicats, les associations se tiennent à l'écart après avoir été dépassés. Du coup, il n'y a personne avec qui négocier.
Il n'y a personne avec qui négocier, mais le problème aussi est de savoir quoi négocier. Ce que le mouvement signifie, c'est d'abord un mouvement, un cri de colère, et un mouvement anti. On est anti le pouvoir, on est anti les politiques, on est anti les élites, on est un peu anti Paris aussi, il faut bien le dire, anti tout ce qui est puissant. Le grand message, ça va bien au-delà évidemment de la hausse du carburant, c'est respecter nos vies. Les vies des Français sont souvent difficiles. Et moi, j'ai été frappé, vous me disiez que je suivais les sondages, j'ai été frappé. Depuis quelques années, nous avions dans les sondages l'idée que les Français pensaient massivement que leurs enfants vivraient moins bien qu'eux. Et j'ai vu récemment dans un sondage, on est à l'intersection, c'est que les Français d'aujourd'hui pensent que leurs parents vivaient mieux qu'eux. C'est-à-dire que, en même temps, si je puis dire, nous avons des enfants qui vivront moins bien, des parents qui vivaient mieux, donc une génération qui se sent prise en étau et la notion de progrès qui s'effondre derrière. Et donc, c'est un cri d'angoisse, de colère, d'inquiétude, de non-prise en compte des soucis de la vie quotidienne. Et aussi, un sondage récent le disait, c'était très intéressant, 24% des Français des catégories modestes disent dans ce sondage IFOP récent qu'ils sont en découvert bancaire chaque mois. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à boucler le mois avec le budget théorique qu'ils ont. Donc c'est une situation où effectivement on est à l'euro près. Alors vous pouvez annoncer des primes très importantes à la conversion, etc. Quand vous êtes à l'euro près, vous n'êtes pas en situation. Et quand en plus chaque foyer a deux ou trois voitures, une voiture par adulte dans un foyer, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous adapter rapidement et facilement. Le sentiment que les Français ont eu, c'est qu'on les forçait à évoluer beaucoup trop vite par rapport à leurs capacités, leurs moyens, et donc ils crient « ce n'est pas possible ».
D'où la difficulté du pouvoir, on va en reparler dans quelques instants, parce qu'il n'y a pas de revendication claire et identifiée, vous l'avez souligné, on est bien au-delà d'une grogne contre les carburants trop chers, ce qui était le point de départ. D'ailleurs, ces carburants, ils ont perdu 10 centimes par litre en un mois et demi. Le sans-plomb qui était à 1,58 € début octobre est tombé ces jours-ci à 1,48 €. Ça n'a pas fait retomber la colère. C'est un sentiment d'oubli ou de mépris du pouvoir central, Jérôme Jaffré.
Vous avez une crise et du système politique et du système social en France. D'abord, ce que nous dit ce mouvement, c'est que la fracture sociale en France ne cesse de s'aggraver. Cette fracture sociale qu'avait dénoncé Jacques Chirac dans la campagne de 1995, il s'était fait lire dessus en promettant qu'il allait la réduire. En fait, elle n'a cessé de s'aggraver. On est dans un système d'incohérence chez les Français, c'est-à-dire qu'on demande moins à l'impôt et davantage à la dépense publique. Ce n'est pas possible. Ça crée la dette depuis deux générations et ça devient insoutenable. Et donc, on est dans cette difficulté. Quand le gouvernement annonce qu'il veut réduire un peu 4 600 postes sur 1 000 000 d'enseignants l'année prochaine, 75% des Français dans les sondages disent « c'est inacceptable, l'éducation doit être une priorité ». Et puis, notre système politique pose aussi problème. C'est-à-dire que nous avons une usure des gouvernants à une rapidité vertigineuse maintenant, une élection présidentielle qui ne fonctionne plus comme elle fonctionnait autrefois, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus, dans une campagne présidentielle, vous faire élire en parlant des problèmes du pays et ce qu'il faut faire pour les résoudre. Vous devez mettre les problèmes sous le tapis pour vous faire élire ou tenir un discours très général, la bienveillance, la transformation. Et puis, au bout d'un an, quand vous affrontez, vous essayez de faire des choses, vous rentrerez la colère du pays parce que c'est très difficile de changer les choses.
Jérôme Jaffré, politologue, vous restez avec nous. Dans 1 minute 30, je vous demanderai comment un président impopulaire dans ce contexte que vous venez de décrire peut espérer éventuellement reprendre la main. À tout de suite.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Avec le politologue Jérôme Jaffré qui dirige le CECOP et cette phrase présidentielle, on l'a entendue il y a quelques minutes, prononcée mercredi soir sur TF1. Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants et cela me touche énormément. Un aveu d'échec inédit là aussi, Jérôme Jaffré.
Oh, les aveux d'échec, c'est pas la pratique habituelle des politiques, il faut le reconnaître. Ça m'a quand même beaucoup surpris de la part du président Macron. Parce que la force du président Macron jusque-là, c'était l'extraordinaire confiance en lui-même qu'il avait et qu'il projetait au pays. Et donc, si le président donne le sentiment qu'il perd un peu confiance en lui-même, ça crée aussi un doute accru en politique et c'est donc difficile à gérer.
Confiance qui était assimilée parfois à de l'arrogance aussi.
Voilà, il avait un peu franchi le pas. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il avait au fond un message assez cohérent jusqu'à une date très récente. C'est mon impopularité, je l'offre au pays pour faire des réformes. Au fond, je l'accepte. Parce qu'il faut faire des choses, il faut que le pays bouge, avec l'idée que, dans ses profondeurs, le pays pensait qu'effectivement, il fallait faire ses réformes, il fallait être courageux, il fallait le faire. Et on a l'impression que le président doute un peu là-dessus, parce que c'est très difficile de réformer le pays. Et de ce point de vue, si vous voulez, alors le président a dit que le pays demande considération, ben ça, il essaye de faire des progrès dans ce domaine, protection, il ne réussit pas, et solution, demande de solution. Ça, c'est son point fort. Et je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il peut mettre l'accent. Les solutions aux problèmes du pays et la transformation du pays, ça reste quelque chose qui est un moteur pour la suite de son quinquennat, à condition qu'il accepte un peu plus de temps long dans la transformation pour permettre aux Français de s'adapter dans leur vie quotidienne. Car il a voulu faire la transformation, c'est « je transfère de l'argent des retraités » sur les actifs, parce que le travail ne paie pas assez. Je taxe moins le travail et je taxe davantage la pollution, les carburants et compagnie. Mais en même temps, je supprime la taxe d'habitation progressivement, ce qui redonne du pouvoir d'achat aux Français. Donc il y avait un plan cohérent. Sauf qu'en politique, ce qu'on vous donne est très vite acquis et oublié. Ce qu'on vous prend n'est pas du tout oublié. Et là, on le vit très mal. Et que vous mettez à dos les retraités, les automobilistes, les ruraux, ça fait du monde dans le pays. Donc voilà, il faut il faut aller vers la transformation parce qu'il a devant lui. Nous avons en janvier le démarrage du prélèvement à la source. Nous avons en 2019 la réforme des retraites, qui est quelque chose sur lequel les Français ne plaisantent pas du tout. Hein. Souvenons-nous de 1995 et des difficultés de réforme sur ce sujet. Pour avancer dans ce domaine, il faut que le temps d'adaptation des Français soit donné. Et c'est le cas évidemment sur les voitures. On ne peut pas dire aux Français, dans les 3-4 ans, vous devez changer toutes vos voitures qui sont des vieilles voitures, c'est pas possible, vous pouvez continuer. Le diesel va être interdit. Non, les Français ne peuvent pas, sur ce temps court, s'adapter. Et ça, il faut que Macron le prenne en compte.
Alors ça, ce sont les mesures politiques. Et puis il y a la communication, le dialogue, le lien avec les Français. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron n'entend pas cette France-là, la France en colère, c'est le reproche qui lui est fait, ou est-ce que ce sont ces Français en colère qui n'écoutent plus Emmanuel Macron, comme le faisait remarquer Éric Le Boucher hier dans Les Échos ?
Oui, ça c'était la théorie de Macron, il citait Lévinas en disant « la confiance c'est le problème de l'autre ». Merveilleuse citation qui consistait à dire aux Français, si vous n'avez plus confiance en
faute.
Moi, c'est vous qui devez vous interroger, oui. Et non pas. Alors, j'ai lu d'ailleurs que le club des amis de Lévinas demandait au président de sourcer exactement cette citation parce que eux-mêmes ne la trouvaient pas dans l'œuvre de Lévinas. Oui. Donc c'est un débat que j'ai trouvé très amusant là-dessus. Mais c'est évident que là, maintenant, il y a un problème d'écoute. Un problème d'écoute des deux sens. C'est au président de bouger. Et c'est au président d'arriver à trouver la martingale. Je réforme, mais je tiens compte de la vie quotidienne des Français. C'est la martingale. Jusqu'à présent, elle n'est pas... La transition écologique, si vous voulez, d'abord, ça ne parle pas aux Français comme thème. Ça ne dit rien, la transition écologique. Sauf si ça devient une écologie punitive consistant à vous taxer et à faire un impôt supplémentaire sur les plus pauvres, qui, eux, ne peuvent pas s'adapter à la transition écologique en quelque temps. Donc, très rapidement. Donc, nous avons une situation où le président doit tenir compte de cela, car sinon, il ne retrouvera pas l'écoute du pays. C'est ça, le danger.
Oui, mais un pays qui semble, pour une partie, replié sur des intérêts particuliers et surtout dégoûté de la politique. Jérôme Jaffré, vous le soulignez il y a un instant, il y a le sentiment d'une impasse politique, l'impression que oui. Tout a été essayé. Et...
Voilà, ce qui frappe dans la période actuelle, c'est également l'absence totale de transfert de confiance vers les partis d'opposition, vers les leaders d'opposition. Vous n'avez aucune progression. Les Français, ils ont essayé la gauche et la droite depuis 2 siècles. Et dans les 2 derniers quinquennats, ils estiment que la gauche et la droite ont échoué. Ils ont essayé, ils ne veulent pas des extrêmes au pouvoir. Les extrêmes servent à exprimer la colère, mais pas pour aller au pouvoir. Ils ont essayé le dégagisme. Le dégagisme, tous azimuts, Macron, son parti, hop, on change tout. Et là, ils se disent, mais ça ne fonctionne pas non plus. Donc c'est le formidable sentiment d'une impasse politique. Et dans la période actuelle, où tous les partis d'opposition applaudissent le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi le problème majeur qui est que les partis de gouvernement, le Parti socialiste, les Républicains, tentent à se transformer en partis protestataires. Et ça, c'est un glissement politique qui fait que vous n'avez plus d'alternative politique construite, programmée devant nous. D'où exaspération, sentiment d'impasse, délégitimation des politiques. C'est une situation qui pourrait finir par ressembler à l'Italie. Des mouvements extrémistes alliés à des mouvements politiques nouveaux pourraient balayer la vie politique française. La présidentielle s'y prête admirablement. Là, les partis de gouvernement ne peuvent pas devenir des partis protestataires, sauf à perdre leur raison d'être.
Merci Jérôme Jaffré d'être venu porter votre regard sur ce mouvement inédit, votre regard sous le regard de notre invité suivant qui vous a écouté avec beaucoup d'attention. Ce sera dans un instant. Le Brexit, la Grande-Bretagne et l'Europe. Comment dire bye bye aux Anglais et redonner foi aux Européens? Avec nous en direct, Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge, chef des eurodéputés centristes et chargé du Brexit au Parlement européen.
Europe 1. Vous êtes avec Patrick Cohen jusqu'à 10h pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Guy Verhofstadt.
Bonjour.
Avez-vous lu en entier les 585 pages et 185 articles de l'accord de retrait conclu cette semaine entre
absolument
Londres et Bruxelles?
Pas, absolument pas.
Non. Bon, vous nous confirmez que c'est effroyablement compliqué, comme que la sortie d'un pays de l'Union Européenne, c'est comme le dit Pascal Lamy, retirer les œufs d'une omelette.
Oui, et c'est surtout presque 40 ans de coopération. Et ça c'est normal que c'est très difficile. Néanmoins, je crois que l'accord intervenu, c'est un accord qui était la meilleure solution possible pour une situation, pour quand même une tragédie, parce que le fait que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, c'est pas fameux naturellement, c'est une drame, c'est une tragédie. Mais je pense qu'on a réussi à faire quelque chose, à mettre sur papier quelque chose qui va limiter les casses, qui va limiter les fractures au niveau, surtout au niveau économique, des deux côtés.
Sauf que à part Theresa May, pas grand monde de l'autre côté de la Manche n'imagine que cet accord puisse être ratifié par le Parlement britannique. C'est un problème.
Oui, le problème, c'est qu'on ne voit pas pour le moment quel type de Brexit peut être ratifié. Il y a, moi, j'ai toujours l'impression que dans la vie politique britannique, ce n'est pas l'intérêt national britannique qui est au cœur du comportement. C'est plutôt la lutte classique travailliste, conservateur, et puis les luttes éternelles, je dirais, à l'intérieur du parti conservateur. Mais donc, ça, on va voir en démocratie, parlementaire, c'est le Parlement qui décide, donc c'est le 6 décembre qui a le vote, et on va voir s'il y a une majorité, oui ou non.
À la Chambre des communes, ce sera difficile pour Theresa May. En tout état de cause, il n'est pas question de remettre l'ouvrage sur le métier, de renégocier quoi que ce soit.
Non, on n'a pas travaillé en deux ans. Ce qui est encore en discussion, c'est cette déclaration politique sur la relation de l'avenir. Là, il y a encore du marge de manœuvre parce qu'il va y avoir quatre piliers, la politique extérieure, politique intérieure, coopération spécifique et l'économie. Mais sur l'accord de retrait, le traité de retrait, là, tout a été négocié. Il inclut une période de transition. Il faut quand même expliquer que pendant une période au moins deux ans, elle peut être même prolongée jusqu'à peut-être trois ans. En fait, on va continuer à voir le marché intérieur pour les Britanniques. La seule chose qui va changer, c'est que dès le 29 mars, il ne va plus y avoir des Britanniques autour de la table de négociation et de décision.
Donc, ils seront privés de décision, mais ils resteront dans l'union douanière, les Anglais.
Ça, c'est comme on dit, le backstop. C'est un mot difficile, je trouve.
C'est le filet de sécurité.
Filet
c'est généralement
de sécurité,
traduit
l'assurance,
en français.
L'assurance. Moi, je dis c'est l'assurance. À un certain moment, si on voit que l'accord qu'on fait pour l'avenir n'évite pas une frontière au milieu de l'Irlande, entre l'Irlande du Nord, alors c'est le backstop, c'est l'assurance qui est d'application. Et ça veut dire qu'il y a une union douanière qui est créée.
Mais ça veut dire aussi que les Anglais ne pourront pas commercer librement avec le reste du monde comme le souhaitaient les partisans du Brexit, c'est-à-dire conclure des accords de libre-échange avec tel ou tel pays.
Tout à fait, pour les biens, parce que c'est une union douanière pour les biens, alors ils n'ont pas la possibilité, la compétence de négocier des traités de libre-échange.
Et ça
continue à être...
Oui, mais c'est ça qui fait hurler les Brexiteurs.
Oui, mais c'était la seule possibilité pour éviter une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et pourquoi on ne veut pas de frontières? Parce qu'il faut quand même l'expliquer. Ce n'est pas pour des raisons économiques, c'est pour des raisons politiques. Il va y avoir le retour de la violence. Moi, j'ai visité cette frontière. Tout d'abord, on ne la voit pas. Hein, cette frontière, il y a des signes en blanc sur les trottoirs et dans les rues. Et de l'autre côté, c'est en jaune. On compte en miles et de l'autre côté en kilomètres. Oui. Mais pour le reste, il n'y a pas de frontière. Oui. S'il y a un retour du frontière, moi, je suis persuadé que le jour après, il y a de la violence qui va retourner, il y a des bombes qui sont jetées, et donc ce serait dommage. Et ça, il faut éviter, c'est pour ça que l'Union européenne a été si, je dirais, conséquent à demander, à exiger qu'il n'y a pas de retour de frontières.
C'est un accord pour les deux Irlandes qui a mis fin à 20 ans de violence, l'accord du Vendredi Saint, exactement. Ouais. Les dirigeants britanniques ont maintenant le choix entre le reniement de leurs promesses ou le désastre économique, a dit hier le ministre de l'économie, le ministre Bruno Le Maire. Il a raison. Le désastre économique qui serait
le
Brexit sans accord.
Sans accord, je crois que ce serait une catastrophe. Pas seulement pour les Britanniques, mais aussi pour nous, ce serait pas bon. Parce qu'il y a quand même beaucoup de nos industries qui coopèrent avec eux. Mais pour la Grande-Bretagne, ce serait vraiment une catastrophe. Et donc, il faut l'éviter. Je pense que finalement, ça va peser le plus et que ce sera le bon sens qui va gagner dans la Chambre des communes.
Si Theresa May parvient à faire voter cet accord de retrait par le Parlement britannique, est-ce que ça passera au Parlement européen? Parce qu'il faudra aussi un vote du Parlement.
Je pense que oui, parce que pour nous, on a été impliqués dans la négociation dès le premier jour. Moi, j'ai vu Michel Barnier toutes les semaines avec notre groupe dans lequel les 50 groupes pro-européens sont représentés. Et donc, moi, j'ai vu... j'ai suivi, on a co-négocié semaine après semaine. Et donc, ça donne une très bonne base. Le seul point sur lequel moi, j'ai encore des doutes, c'est qu'il faut être à 100% sûr que les mesures pour les ressortissants européens qui vivent en Grande-Bretagne soient respectées et qui sont implémentées de la meilleure façon. Parce que nous, on ne veut pas que ce sont les résidents européens qui vivent là-bas, c'est 3 millions, hein, 3 millions d'Européens, soient les victimes de toute cette opération.
Guy Verhofstadt, président du groupe des eurodéputés centristes au Parlement européen, vous restez avec nous, j'ai encore quelques questions à vous poser sur l'avenir de l'Europe, budget de la zone euro ou défense commune européenne.
C'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Et avec notre invité Guy Verhofstadt, qui dirige le groupe des eurodéputés centristes. Vous avez souvent dit, Guy Verhofstadt, que le Brexit devait être le point de départ d'une refondation de l'Union européenne, mais on n'a pas du tout l'impression d'en prendre le chemin. On n'a pas le sentiment non plus que ce gâchis populiste en Grande-Bretagne a servi de leçon. Les nationalistes ne se sont jamais aussi bien portés en Europe.
Non, je ne sais pas. Ce qu'on voit, c'est que les nationalistes et les populistes n'osent plus parler d'une sortie de l'euro, une sortie de l'Union européenne. Et ça, c'est dû au Brexit. Ce qu'on a vu dans le baromètre de l'opinion publique en Europe, on a vu une renaissance, en fait, de l'idée de la popularité du projet européen. Mais ça ne veut pas dire que les gens trouvent que l'Union européenne fonctionne bien. Donc, il faut faire la différence entre le projet européen. C'est très populaire depuis le Brexit. Les gens disent qu'on ne va pas être aussi fous que les Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Mais de l'autre côté, ils sont très critiques, avec raison, de la façon dont fonctionne l'Union européenne. Donc l'idée apportée, le projet apporté envers les citoyens européens, c'est de dire oui au projet européen, mais pas celui-là, pas l'Union comme on la connaît aujourd'hui, l'Union qui réagit toujours trop mou, trop tard, comme ça a été le cas dans la crise migratoire, dans la crise financière, etc.
Alors, refondation, comment, Guy Verhofstadt?
La première chose à faire, c'est en finir avec l'unanimité. Parce que c'est ça le problème. En fait, le grand problème de l'Union européenne, c'est chaque fois, il faut décider à l'unanimité.
Mais pour en finir avec l'unanimité, il faut l'unanimité.
Oui, mais les Américains jamais, ont fait ça. Non, les Américains ont fait ça différemment. Ça, c'était le congrès de Philadelphie en 1785. Oui. Ils ont dit 9 États sont en faveur, 4 sont contre. Bah, dorénavant, la majorité, c'est 9 contre 13e. Et c'est devenu la majorité qualifiée. Bah, il faut exactement faire la même chose. Il faut avancer avec ces pays qui ont envie et qui trouvent que c'est là-dedans que se trouve l'avenir de notre continent. Et donc, l'unanimité, il faut en finir. Il y a aussi des méthodes techniques dans les traités pour en finir. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut réduire la Commission européenne. On n'a pas besoin d'une Commission européenne de 28 commissaires. On a besoin d'un gouvernement européen limité à 12, à 15. Et ça suffit. Et puis, il faut faire les réformes qui sont nécessaires. Il y a du plus-value qui est donné par l'Union européenne. Pas de la bureaucratie, des règles, etc. Mais, par exemple, l'armée européenne. Par exemple,
l'armée européenne, Emmanuel Macron l'a dit il y a 10 jours sur Europe 1.
Moi, je me rappelle bien que j'ai encore organisé, c'était ensemble avec Schröder et Chirac, le sommet sur la création de l'armée européenne. Et tout le monde était en train de rigoler, disait, bon, c'est pas nécessaire, etc.
On parle bien d'une armée européenne, pas d'une défense européenne commune. Non, c'est pas pareil. Hein.
Non, armée européenne, comme c'était déjà dans les projets des pères fondateurs de l'Union européenne, dans les années 50. Et parce qu'il faut quand même dire aux Français ce qui se passe. C'est nous, hein, en Europe, on dépense 40-45% des dépenses militaires américaines. On n'est que capable de faire 10 ou 15% des opérations de l'armée américaine. Moi je suis pas un mathématicien, mais je sais quand même qu'on est 3 fois moins efficace que les Américains. Deuxième exemple. Nous, on dépense 3 fois plus que les Russes. Au niveau de l'armée, au niveau des dépenses. Mais je suis pas sûr que quand les Russes attaquent l'Union européenne, qu'on est capable, sans aide américaine, de résister. Donc, on duplique. Oui, il y a de la duplication 28 fois. C'est ça le problème en Europe. Et si les Français se disent, il faut épargner de l'argent, là, il y a de l'argent à l'épargner. Et puis, là, il y a une possibilité aussi d'augmenter la sécurité collective de l'Union européenne. Parce que demain, moi, je suis pas sûr, avec M. Trump, qui sera prêt à nous défendre quand il y a des problèmes à nos frontières.
Ce projet que vous avez esquissé, Guy Verhofstadt, vous allez le porter sur des listes communes avec Emmanuel Macron, ou tout au moins avec des soutiens d'Emmanuel Macron aux élections européennes?
Nous, on a décidé, l'Alliance des libéraux et des démocrates au niveau européen, de d'aller dans un mouvement ensemble avec La République En Marche, parce qu'on veut créer une alternative constructive, positive pour cette Union européenne, envers toutes les nationalistes et les populistes de tous bords, et aussi envers les deux grands anciens partis, sociodémocrates socialistes d'une part, et le PPE, les conservateurs d'autre part. Parce que si l'Europe ne fonctionne pas, c'est leur responsabilité. C'est eux qui ont été pendant 20, 25 ans, 30 ans, ils ont eu le président de la Commission pendant 20, 25 ans, ça n'a pas marché, et donc il faut une alternative. Et cette alternative, on va la bâtir en 2019.
Merci Guy Verhofstadt, merci. Je rappelle que vous êtes président du groupe des eurodéputés centristes au Parlement européen, ancien Premier ministre belge. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct.
Europe 1.
Et dans un instant, le professeur Jean-Noël Fabiani va nous raconter l'incroyable histoire, les incroyables histoires de la médecine.
Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
L'incroyable histoire de la médecine, c'est sans doute la bande dessinée la plus instructive et la plus amusante qu'on puisse trouver ce mois-ci. Bonjour Jean-Noël Fabiani.
Bonjour.
Professeur de médecine, vous dirigez le service de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital Pompidou. Vous avez enseigné l'histoire de la médecine à Paris 5 et voici cette histoire illustré par Philippe Bercovici, ces histoires de découvertes médicales et de progrès humains qui remontent à la préhistoire, puisque dites-vous, on sait qu'il y a toujours eu des hommes malades et d'autres qui tentent de les soulager.
Ça c'est certain. Depuis la nuit des temps, il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait des herbes qui vous permettaient de guérir d'une fièvre, qui ont compris qu'une fracture, ça pouvait très bien se redresser et mettre une attelle avec un bout de bois.
Dès le paléolithique, vous dites, pour les attelles?
Absolument.
Mais la médecine, au départ, c'est considéré comme étant plutôt de la magie. On invoque des sorciers et des forces supérieures.
Évidemment, et heureusement, à un certain moment, en 400 avant Jésus-Christ, arrive un homme qui va séparer la médecine et la magie. Il s'appelle Hippocrate. C'est notre père à tous.
C'est une incroyable postérité, parce que quand on songe que tous les médecins d'aujourd'hui prêtent serment sur un texte du 4e siècle avant Jésus-Christ.
C'est tout à fait exact. Hippocrate non seulement a décrit la médecine de façon scientifique, mais il a compris qu'il fallait que pour être médecin, cela supposait une éthique. Et donc, il a écrit ce serment extraordinaire que nous prêtons tous en début de carrière.
Est-il vrai qu'il a vécu jusqu'à 120 ans? C'est une légende.
Je crois que c'est une légende. Mais en tout cas, il a vécu très vieux. Et je crois qu'il a respecté ses principes, qui étaient des principes très simples, qui étaient finalement de pas trop manger, de faire un peu d'exercice, et de ne pas faire d'excès de toutes les façons. Et il disait au fond que la nature était bien faite et que si jamais on la laissait faire, elle permettait souvent de guérir.
Alors vous nous racontez, professeur, des dizaines d'histoires étonnantes. Par exemple, pourquoi pendant des siècles, les chirurgiens n'étaient pas médecins?
Eh bien, parce qu'au départ, les gens qui faisaient la chirurgie étaient, au début du Moyen-Âge, étaient des clercs, c'est-à-dire des gens qui étaient des moines. Et puis l'Église n'a pas trouvé ça très bon, parce que les gens allaient voir les moines plus pour se faire soigner que pour le salut de leur âme. Et donc elle a interdit finalement que les clercs pratiquent la chirurgie. L'Église abhorre le sang.
Ils ne devaient pas faire couler le sang.
Ils
c'était absolument interdit. Donc, les chirurgiens...
Donc, alors, qui a une lame qui coupe au Moyen-Âge? Personne, sinon les barbiers. Et donc les barbiers s'engouffrent en quelque sorte dans la brèche et deviennent les chirurgiens du temps.
Et le plus célèbre des chirurgiens barbiers fut Ambroise Paré, un nom qu'on connaît encore aujourd'hui.
Ambroise Paré, en effet, est un barbier. Il ne parle pas le latin, il n'est pas taisé, il n'a pas fait d'études à l'université. Mais c'est un homme extrêmement pratique, qui a le sens véritablement des choses simples. Il s'exprime simplement, il a des idées simples. Et finalement, par exemple, lorsqu'il fait des amputations, et c'est le premier à comprendre qu'il faut lier l'artère plutôt que de la brûler avec un tisonnier brûlant. Ce qui est quand même mieux pour le pauvre malade.
Et vous nous racontez avec des dessins, je dois dire, très amusants pour une situation qui l'était sans doute pas au départ. Vous nous racontez pourquoi une fistule anale de Louis XIV a mis fin à cette ségrégation entre médecins et chirurgiens.
Eh bien, parce que le roi Louis XIV avait une fistule anale, en effet, que les médecins essayaient de guérir. Il lui avait dit de boire de l'eau minérale. Alors, ça ne lui plaisait pas tellement au roi Louis XIV. Ouais. On lui avait mis de la pommade, on lui avait mis des tas de choses. Mais finalement, ça ne guérissait pas. On fait donc venir le barbier de la cour, qui s'appelait Félix, nom prédestiné, et qui observe le roi devant toute la cour. Hein, le roi a déchaussé, et puis soulevé son manteau. Ouais, tout le monde a pu
il
voir.
Il est à quatre pattes dans la bande dessinée.
Absolument, ouais. Bah oui. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et Félix lui dit « Sire, il faudra que je vous fasse l'opération cruciale ». Alors Louis XIV n'était pas très content de ce mot « opération cruciale ». Il dit « Félix, entraînez-vous » et il lui confie ses galériens. « Entraînez-vous sur mes galériens ». Ce que fait Félix. Finalement, l'opération a lieu à Fontainebleau au mois de novembre. Et c'est quand même une opération dure, hein, assez extraordinaire. Et Félix, finalement, réussit parce qu'il a une arme secrète, Félix. Une fois qu'il a fait la plaie, eh bien, il fait des pansements avec du vin de Bourgogne qui, dit-on, est formidable pour la cicatrisation. Et le roi guérit. Et le roi dit à Félix, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et Félix, qui était un homme simple lui aussi, et très intelligent, il lui dit, écoutez, Sire, il faudrait quand même qu'on sépare la barberie de la chirurgie. Si bien que Louis XIV est entré progressivement dans cette voie.
Et alors, histoire dans l'histoire, pendant l'opération, on a chanté l'amorce d'un God Save the King.
Ah, c'était extraordinaire, parce que Madame de Maintenon, elle dit, il faut que pendant que mon royal époux se fait opérer, il faut que je l'aide. Elle demande à Lully de composer un hymne, que Dieu sauve le roi. Elle fait chanter toutes ces demoiselles. Ces demoiselles chantent et là passe Jacques de Stuart qui entre dans la pièce sans savoir ce qui se passait, qui entend cet air merveilleux et qui dit « Quand je serai roi d'Angleterre, eh bien ça deviendra l'hymne national ». C'est devenu l'hymne national anglais qui a quand même été composé par Lully pour les fêtes de Louis XIV.
Voilà, on doit « God save the king » ou « the queen » à une fistule anale de Louis XIV. Jean-Noël Fabiani, vous nous révélez comment on cassait sa pipe?
Ah oui, ça c'est l'arrêt, le grand l'arrêt qui est obligé le soir des lots. Il faisait moins 20 le soir des lots, il fait 200 amputations. Et il avait une habitude, il donnait la pipe entre les dents au gars. Il lui disait, tu serres bien ta pipe.
Serrer les dents, ouais.
On lui serre bien les dents, tu serres sur ta pipe, tout ça. Et il sciait à vif, à cru, hein. Il n'y avait pas d'anesthésie
pour, les amputations, bien sûr,
pour
ouais.
Amputer la cuisse ou la jambe. Et... au moment où, dans certains cas, la pipe tombait. Et comme c'était des pipes avec des fûts en terre, elle se cassait. Et quand la pipe tombait, il a cassé sa pipe, il est mort.
Et c'est un dentiste américain sur une fête foraine qui a eu l'idée de l'anesthésie. Alors, il y a plusieurs inventeurs, hein, vous racontez dans le livre, mais c'est vrai que cette histoire est... assez amusante, avec du gaz hilarant.
Ah oui, il y a la baraque du gaz hilarant, il voit, c'est Horace Wells, il voit son camarade Sam qui monte sur la baraque, qui respire du gaz hilarant, il sort de là en riant certes, mais surtout un peu titubant, il tombe de l'estrade, un clou dépasse, lui arrache le mollet, Horace Wells se précipite, lui dit « Mais tu as très mal, Sam !» Non, j'ai pas mal du tout, tout va très bien. » 2 heures après, il retourne le voir chez lui, il hurle de douleur. Et alors là, Horace Wells a la très bonne intelligence de dire « Et si c'était le gaz hilarant qui l'avait rendu finalement indolore, anesthésié ?» Et ce gaz, c'est le protoxyde d'azote, c'est-à-dire le premier gaz anesthésiant.
Il y a, je le disais, 240 pages environ, des dizaines d'histoires, beaucoup de choses qui sont racontées. Il y a le sujet qui fâche du moment sur lequel vous êtes assez discret, Jean-Noël Fabiani, l'homéopathie. Il y a peut-être 2 cases simplement dans votre livre. On voit que vous n'y êtes pas, vous n'y croyez pas beaucoup, même pas du tout. Mais
je raconte comment est survenue l'invention de l'homéopathie, qui part d'un principe qui dit que finalement, dans l'organisme, eh bien, il suffit de provoquer l'effet d'une drogue pour que finalement l'organisme réagisse à cela et que donc on le donne la dose la moins importante possible. Malheureusement avec l'homéopathie, mais ça j'en parle pas dans le livre parce que c'est un autre sujet, l'homéopathie n'a pas fait les preuves de son efficacité avec les études telles que nous les réalisons actuellement pour les autres médicaments. C'est la seule discussion. Alors maintenant que les médecins homéopathes soient de très bons médecins et qu'ils écoutent bien leurs patients et qu'ils utilisent un autre effet dont je parle beaucoup dans ce livre, qui est l'effet placebo, en revanche, ça c'est certain.
Jean-Noël Fabiani, avec les dessins vraiment très réussis et très amusants de Philippe Bercovici, l'incroyable histoire de la médecine, c'est aux éditions Les Arènes et c'est une bande dessinée qu'on vous recommande vivement. Merci d'être venu
nous en
parler.
Merci à vous.
Excellente journée à l'écoute d'Europe 1. Je vous retrouve demain à 9h10 après la matinale de Bernard Poirette pour C'est arrivé demain. Bonne journée.
Merci Patrick Cohen, c'était C'est arrivé cette semaine. Très bon samedi matin, il est 9h54 sur Europe 1.